Jean-Sébastien Bach, chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je vais vous présenter la vie du célèbre compositeur Jean-Sébastien Bach. Vous avez écouté la toccata BWV 911 en do mineur, une reconnaissance tardive. Cela nous semble étonnant aujourd'hui, mais Johann Sebastian, Jean-Sébastien en français, Bach n'était pas plus apprécié à son époque que Kaufmann, Rolle ou Graupner, ses concurrents au poste de cantor de Leipzig. Le temps a remis les pendules à l'heure. Il est à présent considéré comme un des sommets de la musique et souvent désigné comme le père de la musique par les compositeurs eux-mêmes. De son vivant, il n'était connu que localement et surtout comme organiste et improvisateur. Après sa mort, sa musique fut vite oubliée car on l'a jugée dépassée. Le souvenir de son œuvre ne fut entretenu que par ses fils, surtout Carl Philipp Emanuel, et par quelques rares amateurs. Cependant, son art du contrepoint impressionna fort Wolfgang Mozart, puis Ludwig van Beethoven, le dernier jouait même par cœur le clavier bien tempéré. Ce n'est qu'au milieu du 19e siècle qu'il fut véritablement remis à l'honneur, notamment grâce aux efforts de Felix Mendelssohn Bartholdy, qui fit exécuter la Passion selon saint Matthieu en 1829 à l'église Saint-Thomas de Leipzig. Enfance et formation. Johann Sebastian Bach, né le 21 mars ou le 31 selon notre calendrier 1685 à Eisenach, Thuringe, Allemagne. C'est le 8e et dernier enfant d'une famille très musicienne. Son père, Johann Ambrosius, lui enseigne le violon et lui procure une bonne éducation musicale. En 1694 et 1695, Jean-Sébastien Bach perd respectivement sa mère puis son père. Il est recueilli à Ohrdruf par son frère aîné Johann Christoph, également musicien, qui poursuit son éducation. À l'école, il saute les classes. Il a la passion d'apprendre. À 15 ans, il se rend avec un ami dans la grande ville de Lunebourg. Il fait le chemin à pied, plus de 300 km. Il est admis dans la manécanterie renommée d'une école religieuse qui accueille les jeunes garçons pauvres ayant une belle voix. Ses qualités y sont appréciées. En contrepartie des cours qu'il reçoit gratuitement à la Michaelsschule, l'élève doit participer à la chorale de l'église Saint-Michel. Outre la musique, il apprend la rhétorique, le latin, le grec et le français. Il possède donc une culture bien plus approfondie que la plupart de ses contemporains. Il fréquente assidûment la bibliothèque municipale et recopie les partitions des plus grands musiciens de l'époque. Il a aussi l'occasion de se familiariser avec la musique française puisqu'il rencontre Thomas de la Selle, élève de Jean-Baptiste Lully. Il entame peut-être même une correspondance avec François Couperin. Il se familiarise aussi avec tous les styles. Rappelons que vers cette époque, les compositeurs allemands, sous l'impulsion de Georg Philipp Telemann, vont parvenir à réaliser la synthèse dite des goûts réunis entre les styles français et italien. Après l'amu de sa voix, il se tourne vers la pratique instrumentale, orgue, clavecin, violon, et acquiert une véritable expertise dans la facture d'orgue. Il sera souvent invité à inspecter les instruments de sa région. En janvier 1703, brillamment diplômé, il commence sa carrière de musicien professionnel. Une dynastie nombreuse. Johann Sebastian appartient à une famille de musiciens, probablement la plus importante qui soit connue dans toute l'histoire de la musique occidentale. À l'époque, les Bach qui pratiquent cette profession sont déjà au nombre de plusieurs dizaines, exerçant comme musiciens de cour, de ville ou d'église dans la région de Thuringe en Allemagne. Les réunions de famille réunissent jusqu'à 120 personnes et l'on imagine tous ces excellents musiciens chantant en chœur et faisant assaut de verve et de virtuosité. Johann Sebastian se situe à la 5e génération de cette famille et 5 de ses enfants continueront la tradition. Le plus connu est Carl Philipp Emanuel. Organiste virtuose. En 1703, après avoir travaillé dans l'orchestre du duc de Weimar, il n'a même pas 20 ans, il se forge une réputation de virtuose à Arnstadt et décroche un poste d'organiste qui lui laisse du temps pour composer. En 1705, il obtient une permission de 4 semaines pour rendre visite à Dietrich Buxtehude à Lübeck. Il fait à pied les 400 km. Fasciné par l'art du vieux maître, il reste 4 mois près de lui. L'estime est réciproque. Buxtehude lui offre sa succession à l'orgue de la Marienkirche, poste prestigieux s'il en est, mais la contrepartie est d'épouser sa fille, plus très jeune et semble-t-il peu gracieuse. Bach, s'estimant sans doute indigne de cet honneur, décline l'offre, tout comme Georg Friedrich Händel l'avait fait avant lui. Toujours en conflit avec son employeur, Bach quitte Arnstadt et accepte à Mühlhausen à Pâques 1707 les fonctions de compositeur, de cantate et de musique pour orgue, ainsi que de superviseur de la rénovation de l'orgue pour la Blasiuskirche. Un esprit rebelle, son célèbre portrait par Elias Hausmann et le caractère monumental de son œuvre nous donnent aujourd'hui l'image d'un homme posé et réfléchi, presque trop sérieux. Pourtant, il fut un jeune homme fougueux et prompt à faire le coup de poing quand il le fallait. Pendant le service religieux, il se permettait d'agrémenter ses compagnons de démonstrations de virtuosité, ce qui déplaisait fort aux rigoristes. Le consistoire d'Arnstadt, l'autorité religieuse dont il dépend, regrette les nombreuses et curieuses variations dans ses chorales, mêlées d'accords étranges qui embrouillent l'assemblée des fidèles. On l'accuse aussi de profiter des sermons pour s'éclipser et rejoindre la cave à vin. Cette fantaisie se retrouve dans sa musique. Ses spectaculaires toccatas pour orgue datent de cette époque. Quand en 1707, il épouse une cousine lointaine, Maria Barbara, dont il admirait le timbre de soprano, il n'hésitera pas à batailler pour donner à sa femme une place dans les représentations. Il ne reste qu'un an à Mühlhausen car il subit un conflit dogmatique dans lequel il prend parti contre les piétistes, pour lesquels la musique est chant de sirène qui trouble la méditation. Il s'empresse donc en 1708 d'accepter un poste mieux rétribué à la chapelle du duc de Wilhelm Ernst de Saxe-Weimar. Il est maintenant admiré dans toute la région pour sa virtuosité d'organiste. Durant ces années 1707 à 1717, il compose une quantité énorme de musique, dont la cantate Actus Tragicus BWV 106, la plupart de ses pièces pour orgue, le concerto italien BWV 971 pour le clavecin, etc. Bach, à cette période, recopie énormément d'Italiens tels qu'Antonio Vivaldi, Tommaso Albinoni ou encore Girolamo Frescobaldi, ce qui contribue à améliorer son style. Il est nommé Concertmeister, maître des concerts, le 2 mars 1714, mais ses relations avec le duc Wilhelm Ernst sont loin d'être idéales. Outrepassant une consigne stricte, il n'hésite pas à afficher son amitié avec le jeune neveu du duc, Ernst August, excellent claveciniste. Il va même jusqu'à refuser d'écrire pour son véritable employeur, ce dernier lui refusant un poste de Kapellmeister qui aurait dû lui revenir. Le musicien sollicité pour un nouvel emploi à Köthen présente sa démission au duc qui s'y oppose. Un sacré caractère. Bach sait défendre ses intérêts et ne renoncera jamais à changer de place quand un emploi l'ennuie ou lui semble peu prometteur. Après les 10 années passées à la cour du duc de Weimar et suite aux différends avec son employeur, il souhaite changer d'horizon. Aussi, quand en 1717, on lui propose le poste de maître de chapelle de la cour de Köthen, il saute sur l'occasion. Le duc s'y oppose et, pour le faire plier, le fait emprisonner. Peine perdue, le musicien récalcitrant tient bon et au bout d'un mois, le duc comprend qu'il ne pourra le retenir et le libère. À Köthen, il réside de 1717 à 1723 et y est d'abord très heureux. Il est au service du prince Léopold, brillant musicien et protecteur des arts, qui a su attirer à sa cour jusqu'à 18 excellents instrumentistes. Jean-Sébastien profite de cette ambiance propice pour composer ses plus grandes œuvres instrumentales. Sonate pour flûte, pour violon et pour violoncelle, premier livre du clavier bien tempéré, les 6 concertos brandebourgeois, les 4 suites pour orchestre. Mais un terrible événement va faire basculer sa vie. En juillet 1720, alors qu'il rentre d'une station thermale où il accompagnait le prince, Bach apprend la mort de sa femme. Effondré, il hésite un an et demi avant de se remarier. En décembre 1721, il épouse Anne Magdalena Wilken, une jeune chanteuse excellente musicienne dont il est l'aîné de 16 ans. Elle a à ce moment-là 20 ans. Il songe cependant à quitter une ville chargée de souvenirs, d'autant que le prince Léopold perd à son tour sa femme et se remarie. Cette seconde épouse est un peu sensible aux arts en général et en détourne son mari qui semble à partir de ce moment se désintéresser de la musique. Pour Bach, c'est le moment de songer à changer d'air. Il postule alors pour un poste d'organiste à la Katharinenkirche de Hambourg. C'est un candidat moins talentueux qui obtient la charge convoitée. Il sollicite aussi le puissant margrave de Brandebourg qui, en lui envoyant un recueil de ses meilleures œuvres concertantes, les 6 concertos brandebourgeois. Il se porte enfin candidat pour le poste envié de cantor de Leipzig. Il l'obtient en 1723 et y passera le reste de sa vie, soit plus de 25 ans. La nomination de Bach à Leipzig ne va pas de soi, car si le conseil de la ville le choisit, c'est faute de débaucher d'autres musiciens plus recherchés, Telemann, Kaufmann, Roll et surtout Christoph Graupner, comme l'écrit un membre du conseil. Puisque l'on ne peut avoir les meilleurs, il faut donc prendre les médiocres. Remarque étonnante, qui aujourd'hui connaît encore Graupner ? Il était pourtant célèbre en son temps, car il n'était pas dénué de talent. Mais l'anecdote indique bien que la savante écriture du style baroque commençait à lasser. Un critique de l'époque écrit du cantor en 1737. Ce grand homme ferait l'admiration de toutes les nations s'il avait plus d'agrément et s'il n'ôtait pas le naturel à ses pièces en y mettant de l'enflure et quelque chose d'embrouillé, et s'il n'obscurcissait pas la beauté par un excès d'art. Cette enflure l'a fait tomber du naturel dans l'artificiel, du sublime dans l'obscur. On admire un travail écrasant, une peine énorme, hélas employée en vain, car il combatte la raison. Graupner était un homme modeste. Il voulait qu'on détruisît ses manuscrits après sa mort. Fort heureusement, son neveu ne fut pas exaucé et son œuvre immense, près de 1800 numéros, est intégralement conservée. Elle renferme des trésors qu'on redécouvre peu à peu. Vous avez écouté le concerto des violons. Un travail forçat. Moins bien rémunéré que Cöthen, le poste de Leipzig n'est pas de tout repos. Bach doit fournir de très nombreuses partitions pour les églises, une cantate pour chaque dimanche, et enseigner la musique, le catéchisme et le latin dans les 2 écoles ecclésiastiques de la ville. Il n'aura de cesse que d'échapper à cette dernière corvée. Heureusement, sa femme l'aide beaucoup en recopiant toutes ses partitions. Il est aussi assisté dans ses activités par des élèves ou amis, mais également par son fils Carl Philipp Emmanuel. De tempérament, semble-t-il, peu conciliant, le nouveau cantor va de plus connaître quelques difficultés avec ses employeurs qui rechignent, par exemple, à lui verser tout son salaire et ses collègues trop médiocres. L'organiste Görner reçut ainsi une perrique au visage de la part du tumultueux musicien qui lui conseilla même de se faire cordonnier. Bach cherche en vain un emploi à l'abri, des autorités d'humeur bizarre qui favorisent peu la musique. En 1730, l'école Saint-Thomas bénéficie d'un nouveau recteur, Gessner. Changement de philosophie. La musique acquiert une place plus importante. Les charges extra-musicales de Bach s'allègent et il dispose d'un excellent effectif. le Collegium Musicum de Leipzig pour interpréter ses œuvres. Une répétition leur suivit pour monter la cantate hebdomadaire, temps éphémère. En 1734, Gessner est remplacé et les conflits reprennent pour s'atténuer lorsque Bach est en plus nommé à titre honorifique compositeur de la cour de Saxe en 1736. Durant cette période, il mène une riche vie. Pour les réunions musicales du café Zimmermann, il écrit des cantates profanes et il transcrit des œuvres anciennes. Il va souvent à l'opéra de Dresde, ville où son fils Carl Philipp Emanuel est organiste. C'est à Leipzig qu'il compose la majorité de ses œuvres sacrées. Et il est dans cette phase de vie où, comme le dit Forkel, son premier biographe, il ne pouvait toucher une plume sans produire un chef-d'œuvre. Un cadeau royal. Dans les années 1740, il est au fête de sa gloire et ses déplacements font l'objet d'encarts dans la presse locale. Dimanche dernier, M. Bach, le célèbre maître de chapelle de Leipzig, est arrivé à Potsdam dans le but d'avoir le plaisir d'y entendre la noble musique royale. Le soir, au moment où la musique ordinaire de la chambre entre dans les appartements du roi, on annonça à Sa Majesté que le maître de chapelle Bach attendait la très gracieuse autorisation d'entendre la musique. Sa Majesté ordonna immédiatement qu'on le laissât entrer et se mit aussitôt à l'instrument nommé forte et piano et eut la bonté de jouer en personne un thème au maître de chapelle Bach sur lequel, sans la moindre préparation, celui-ci dut exécuter une fugue. Le maître de chapelle s'exécuta de manière si heureuse que Sa Majesté eut la bonté de montrer sa satisfaction et que toutes les personnes présentées restèrent stupéfaites. Monsieur Bach trouva si beau le thème que lui avait été présenté qu'il veut apporter sur papier une véritable fugue et la faire ensuite graver sur cuivre. Berlinische Nachrichten, Berlin, 11 mai 1747. En fait, c'est près d'une heure de musique qu'il écrira et enverra à Frédéric II de Prusse sous titre d'offrande musicale. L'offrande musicale fait partie de ces monuments qu'il laisse à la postérité pour témoigner sa souveraine maîtrise du contrepoint. Citons aussi les 32 variations Goldberg, BWV 988, composées selon le titre à l'intention des amateurs pour la récréation de leurs esprits, l'art de la fugue BWV 1080, laissé inachevé au moment où il introduit les notes correspondant à son nom. Enfin, ce qu'il conçoit comme son testament musical, élaboré de 1723 à 1749, la grande messe en si mineur, BWV 232. Les deux tiers sont empruntés à des œuvres antérieures selon le procédé de la parodie qui consiste à reprendre une pièce ancienne en changeant les paroles. L'attrait des nombres. Jean-Sébastien Bach est fasciné par les jeux numériques, notamment par le nombre 14, somme des lettres de son nom. B, deuxième lettre de l'alphabet, plus A, première, plus C, troisième, plus H, huitième, plus 2, plus 1, plus 3, plus 8, égale 14. À l'âge de 55 ans, 1740, il intègre d'ailleurs une société savante, mais attend d'en être le 14e membre, même si Handel et Telemann en font déjà partie. Cette société étudie les rapports numériques dans la musique. Les variations Goldberg, l'art de la fugue, auraient dû en faire partie aussi, sont parmi les contributions scientifiques que Bach lui fait parvenir. Sur le portrait peint par Elias Hausmann réalisé à l'occasion de son admission, il présente au spectateur la partition d'un canon en forme d'énigme, sa dernière œuvre. À partir de 1745, Bach perd progressivement la vue et les opérations que tente le prétendu chirurgien John Taylor en mars et avril 1750 ne font qu'empirer les choses. Ce n'était qu'un avant-goût pour Taylor qui fera le même coup à Handel quelques temps après. C'est complètement aveugle que décède le musicien le 28 juillet 1750. Sur son lit de mort, il dicte à son gendre un choral d'orgue « Seigneur, me voici devant ton trône ». Il clôture ainsi, dans la sérénité et la ferveur, une œuvre immense, d'une qualité et d'une diversité remarquables, où le contrepoint le plus complexe côtoie les mélodies les plus suaves. Œuvre pourtant d'une grande cohérence, au point que, dès les premières mesures, on reconnaît l'auteur. Postérité. Bien que relativement peu connu de son vivant et quasiment oublié à sa mort, il est aujourd'hui universellement apprécié. Même quand on le plaisante, c'est avec révérence. Parlant de ses pièces en forme de mouvement perpétuel, Colette l'appelait la divine machine à coudre. Longue serait la liste des compositeurs qui s'y sont référés. Mozart a changé son écriture après avoir découvert son œuvre. Beethoven s'en inspire dans tous ses passages fugués. On connaît le célèbre Ave Maria que Gounod a écrit en se basant sur le premier prélude du clavier bien tempéré. Les œuvres à la manière de sont pléthores. Le chef de file du dodécaphonisme, Schoenberg, 1874 à 1951, voit en lui un précurseur de ses théories. Berg, 1885 à 1935, cite le choral au Ewigkeit du Donnerwort, BWV 60, au deuxième mouvement du concerto à la mémoire d'un ange. Webern, 1883 à 1945, orchestre le Ricercare de l'offrande musicale. Écoutez une version au clavecin puis l'orchestration de Webern, afin de réveiller ceux qui sommeillent encore dans le secret de cette représentation abstraite voulue par Bach lui-même et qui par là reste incompréhensible ou du moins pratiquement insaisissable pour la plupart des gens. Ce ne sont que quelques exemples. Même transposé pour toutes sortes d'instruments, même revisité par la variété ou le jazz, la musique de Bach impose malgré tout la richesse de sa structure et la force de son expression, démontrant son caractère intemporel. Puissamment construite, animée par une pulsation rythmique irrésistible, elle donne le sentiment d'accéder à un état supérieur de l'être. Ce qui illustre bien ce mot définitif d'Émile Cioran. S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. Syllogisme de l'amertume, 1952. Vous allez écouter la fugue ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Source internet, symphotique.info, musique, youtube.com.